spécifiquement pour la partie déchets verts, donc c'est-à-dire les tons de pelouse et les branchages, tous les déchets produits au jardin, on avait une vieille unité qui était basée à Saint-Lenoble, qui traitait depuis une quarantaine d'années les déchets verts. Donc cette unité était trop petite et vieillissante et gagnée par l'urbanisation, avec des maisons à plus de 100 mètres. Donc le projet des élus du CIMEVAD, c'était dès 2008 de réfléchir sur une nouvelle unité qui viendrait remplacer Saint-Lenoble en intégrant les nouvelles technologies plus récentes hein, qui permettent de maîtriser encore mieux les odeurs et surtout de produire du bois énergie, ce qui n'était pas le cas à Saint-Lenoble, on ne produisait que du compost. Donc si on résume ici, ce site en fait permet, à partir d'un déchet, on fabrique deux produits valorisables. Du compost qui est à ma droite hein, dans ce bocal, voilà ici, donc destination principalement agricole, et à gauche un bois énergie sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc un déchet en entrée et deux produits en sortie. Et entre deux, on vous présentera le process qui permet d'assurer cette transformation.
Christophe Mézières est directeur général du CIMEVAD. Aujourd'hui, il nous invite à découvrir le centre de valorisation organique du CIMEVAD, une structure au service des communautés d'agglomération de Douai et d'Incarvin et la communauté de communes aux artistes Marquion, inaugurée au mois d'octobre 2018, mais en fonction depuis déjà un trimestre. Christophe Mézières.
Comment on réalise nos projets? Donc on maîtrise l'investissement, donc c'est CIMEVAD qui fait les choix technologiques, on s'appuie sur des bureaux d'études pour nous aider. Et après, on a fait appel à un groupement de conception-construction. Donc vous avez des différents opérateurs qui ont construit cette unité, donc des majors du BTP et du TP, comme Eurovia et Jean Lefebvre. Un spécialiste du process, la société Hanche, hein, qui réalise 200 unités de compostage par an en France. La partie électricité, société Devred. On a Bérim, un bureau d'études local qui a assuré la maîtrise d'œuvre. Et l'architecte est un architecte de Lille. Voilà. Et pour la partie construction et pour la partie exploitation, on a lancé un appel d'exploitation, puisqu'on souhaite toujours que nos unités soient exploitées par le meilleur exploitant possible sur ces thématiques. Et donc, c'est la société Valnord qui a gagné cet appel d'exploitation. C'était déjà l'exploitant de Saint-Lenoble. Donc, ils ont assuré en même temps la transition entre une ancienne unité, donc qui a fermé ses portes en avril, et cette nouvelle unité qui a démarré depuis avril et qui maintenant est en fonctionnement complètement normal.
Pour ce site à Vitry-en-Artois, il y a 4 employés à temps plein.
Anne-Gaëlle Glabeau, responsable d'exploitation du site pour la société Valnord, filiale de Veolia Environnement.
3 ouvriers œuvrants sur le site, hein, qui sont des conducteurs principalement. Et vous avez un chef d'équipe qui va être avec nous pendant la visite. Et puis vous avez aussi tout ce qui est les services support de l'agence, puisqu'on gère d'autres sites à partir de Vitry-en-Artois. Donc vous avez des assistantes d'exploitation et des agents de bascule pour valider et les peser en entrée et en sortie sur ce site.
Des précisions tout de suite, nombre d'habitants qui sont concernés par cette unité, le service, puis ça a coûté combien au final?
D'accord. Donc le nombre d'habitants du CIMEVAD, donc c'est 325 000 habitants, donc ça couvre une centaine de communes sur nos 3 agglomérations que sont la communauté d'agglo Douai, celle des Nains-Carvin et aux artistes Marquion. La partie Marquion nous a rejoint début 2018. Donc la totalité des déchets verts produits par ses habitants vient ici. On ne souhaite pas s'ouvrir à d'autres territoires, hein, vraiment sur un investissement CIMEVAD qui est destiné aux habitants du CIMEVAD. En termes de coûts, le coût de cette unité est de 9 millions d'euros, y compris l'amener des réseaux jusqu'au site, puisqu'on était sur un site qui était complètement isolé. La construction de ce CVO a permis l'amener de l'eau potable, de l'électricité et de l'eau usée. Donc en fait, on contribue au développement des réseaux sur le territoire. Et enfin, la feuille de route qui nous était tracée par ces élus pour ce projet. Donc d'abord, priorité, on s'installe sur des friches. On ne vient pas consommer de terre agricole, donc on est sur une reconversion de friches. Ici, pour ceux qui ont connu le site, je ne sais pas s'il y a des photos, on était vraiment sur une friche d'anciennes pistes allemandes hein, de la Seconde Guerre mondiale, des pistes de roulage, qui étaient devenues au fil du temps des dépôts sauvages, hein, presque une décharge à ciel ouvert. Donc on est vraiment sur quelque chose, on est venu réhabiliter un site qui était devenu une décharge. Donc la priorité, réhabilitation de friches, un site qui soit exemplaire en matière environnementale, donc on vous présentera ce qui a été mis en place ici. Un coût maîtrisé, puisque ce n'est pas le tout de faire des unités modernes et performantes, il faut que le coût reste acceptable pour les habitants. Donc le coût global de traitement des déchets ici pour le site, on est sur 35 euros tonnes pour le traitement des déchets verts. Donc c'était le coût que les élus s'étaient fixé en 2008-2010 quand on a fait les premières réflexions. Et enfin, la priorité, effectivement, c'est qu'on améliore un site, on se veut exemplaire en matière d'environnement et on apporte zéro nuisance pour les éventuels riverains concernés. Oui, c'est très très saisonnier comme type d'abord. Cette difficulté, ces unités, autant de l'ordure ménagère ou de la collectivité, c'est quasiment toujours les mêmes tonnages tous les jours. Là, c'est très très variable hein, en fonction de la météo. S'il a fait beau le week-end, on a des énormes apports le lundi, mardi, très fluctuant. Ouais. Donc le process doit s'adapter à cette saisonnalité.
Alors on a eu énormément au mois de mai. Alors vraiment, ça a explosé au mois de mai parce qu'il faisait beau et humide. C'était très calme et là, ça a repris là pour le mois de septembre.
Septembre, on a eu octobre, beaucoup plus de branches que d'habitude en fait. On a eu beaucoup de branchages cette année, donc c'est pour ça qu'on a un stock de bois assez important par rapport à d'habitude. On a eu très peu de tontes et beaucoup de bois, voilà. Donc ils ont beaucoup de taille.
Les déchetteries viennent toute l'année systématiquement parce que les usagers, enfin les particuliers vont tailler leur haie l'hiver. Voilà, donc ça c'est de la déchetterie, donc ça vient systématiquement ici. Et après vous avez aussi tout ce qui est des services des communes, services techniques, d'aux artistes et de doués. Et puis vous avez aussi, on a un tout petit marché, des petits apporteurs qui sont les centres. Alors, ça peut être des petits pépiniéristes ou des espaces verts du coin, et c'est aussi des centres d'handicap.
CAT, qui font des prestations d'espaces verts. Voilà. Donc, on s'est limité en général aux petits apporteurs du territoire pour un service, parce qu'autrement, ils viennent en déchetterie, ça nous sature les bennes. On préfère qu'ils viennent directement ici plutôt qu'aller en déchetterie et saturer la benne qui est réservée aux particuliers. Voilà, donc, on rend également service à des petits professionnels et également au service technique des communes.
Voilà, mais ça reste très local, hein. C'est vraiment des gens. C'est plutôt rendre service aux gens qui ne savent pas trop quoi faire de leurs déchets.
Pas possible pour un particulier de venir ici et pas possible de venir chercher du compost pour être en sécurité. On ne souhaite pas avoir des véhicules qui viennent là. Donc on a beaucoup de demandes hein, de compost de la part des particuliers. Donc on réfléchit qu'on pourrait mettre ça à terme en place en déchetterie. Quand on a des déchetteries qui sont suffisamment grandes, on pourra avoir une zone de. On viendra déposer une benne, ils viendront avec leur marque chercher du déchet vert. Donc ça, on réfléchit dans les nouvelles déchetteries quand on aura la place. Pour l'instant, on n'a pas la place que les particuliers puissent venir chercher du compost. On avait réfléchi à une ensacheuse. Mais la logistique est très compliquée puisqu'il faudrait ensacher ici et ramener tout le temps du déchet de compost sur nos 12 déchetteries. Donc ce serait une logistique trop compliquée. Donc ce serait plutôt du stock qui sera en vrac et les gens viendraient chercher ça avec leur embarque. Donc ça sera à terme, on mettra en place cette organisation.
Donc, pour des raisons de sécurité, Christophe et Engel vont être devant et avec Carole et Sophie, on va clôturer la marche pendant cette visite. Voilà.
On est sur un site en exploitation. Donc vous allez vraiment voir ce qui se passe tous les jours. Hein. Et donc il y a des engins qui fonctionnent. Voilà, il y a un risque en termes de sécurité. Donc des gilets, on reste groupés sur le site.
On n'a pas pu malheureusement sur ce site, comme on a fait au centre de tri, assurer une partie pédagogique et de visite au public, puisque vous verrez, on a beaucoup de camions qui viennent et beaucoup en fait, d'engins qui reprennent les déchets pour les emmener à un autre endroit. Donc beaucoup de circulation d'engins. Donc c'était vraiment trop risqué d'emmener des enfants ici. On n'a pas souhaité. On pourra faire de temps en temps des journées portes ouvertes, hein, mais ce n'était pas possible d'organiser sur ce type d'activité malheureusement une ouverture au public. Pourtant, en général, c'est notre souhait, mais là, ce n'était pas possible.
Que deviennent vos branchages, pelouses, résidus de tonte, une fois déposés en déchetterie ou à ramasser sur le trottoir lors des collectes organisées sur les territoires? Réponse au CVO, Centre de Valorisation Organique du CIMEVAD. Mais comment gérer les déchets des habitants, apporter le service, mettre en œuvre des infrastructures et en même temps sensibiliser chacun pour qu'il réduise le nombre de ses apports dans les structures par des techniques de compostage, par exemple, à domicile. Christophe Mézières, directeur du CIMEVAD.
On est dans une logique de réduction des services de collecte de déchets en porte-à-porte. Hein. C'est des services en général qui n'existent pas en France. Il y avait historiquement, dans le Nord-Pas-de-Calais, on dit une logique de service maximum l'habitant en porte-à-porte. Donc ces collectes de déchets en porte-à-porte, elles ont tendance à disparaître. Donc on offrira aux habitants un composteur, ce qu'on fait déjà, et la déchetterie. Pour quand il a des volumes trop importants, s'il décide de tailler toutes ses haies, il ne pourra pas mettre dans son composteur. Donc par contre, je suis bien d'accord avec vous, on va progressivement arrêter ces collectes de déchets en porte-à-porte qui sont très onéreuses, qui posent des problèmes de sécurité, d'ergonomie pour les opérateurs qui collectent, hein, puisque c'est des sacs à porter, alors qu'on n'a pas le droit, normalement, l'opérateur ne peut prendre que des bacs à roulettes, hein, en plus des collectes qui ne sont pas conformes, avec des tonnages qui sont très compliqués à collecter, parce qu'un jour, vous n'avez rien, et le lendemain, vous avez des tonnages énormes. Donc, à terme, ces collectes vont disparaître au profit uniquement de la déchetterie et des composteurs. Mais on sait qu'on aura malgré tout, même si les gens compostent chez eux, on aura comme toujours encore des tonnages importants. Donc volontairement, pour anticiper ces baisses de tonnage qu'on souhaite, hein, cette unité elle est quand même sous-dimensionnée par rapport à notre besoin. on a un besoin de, selon nos années, entre 35 et 40 000 tonnes, et l'unité fait 32 000, ce qui nous permettra à terme de continuer à baisser nos tonnages. C'est un peu la logique du CIMEVAD, ne pas surdimensionner les unités pour essayer de continuer à faire baisser les tonnages des habitants. Donc les tonnages excédentaires, on fait appel à des prestataires privés, on externalise les tonnages.
Pour l'habitant, c'est compliqué, enfin, même s'il le paye quelque part, mais c'est compliqué que de connaître le coût réel du traitement de tout ce qu'il peut déposer sur le trottoir.
Oui, effectivement, souvent l'habitant n'a pas notion du coût, hein, puisque ça ne qu'à une collectivité comme la CAC, c'est encore le budget général hein, qui paye le service déchets, donc l'habitant n'a pas du tout connaissance du coût. Et même quand on a une TOM, hein, comme ça peut exister à la CAD ou aux artistes, ça ne couvre pas toujours la totalité du coût du service. En plus, la TOM, elle est assise sur le foncier bâti, donc elle est déconnectée des quantités.
Alors, TOM pour taxe d'ordure ménagère.
Oui, pardon, taxe d'enlèvement d'ordure ménagère. Donc c'est une taxe qui est assise sur le foncier bâti, donc qui est complètement déconnectée de la quantité de déchets que vous pouvez produire. Donc pareil, à terme, il y a des volontés en France d'aller vers la redevance, c'est-à-dire qu'on paierait en fonction de ce qu'on produit et pas uniquement de taxes ménagères. Mais ça prend des années, puisque c'est compliqué à mettre en œuvre, ça pose des problèmes d'équité sociale. Donc ça demandera du temps, mais on y arrivera un jour, je pense. On ira dans cette direction-là avec au moins une part incitative, une part fixe, un peu comme l'abonnement EDF, et une part variable sur la quantité que vous produisez. Parce qu'il y en a qui disent, effectivement, que ça pénalise les familles nombreuses, les familles qui sont plutôt nombreuses par rapport à des familles qui sont monoparentales.
Radio.
Scarpe sensée. Reportage.
Donc on va suivre le circuit du déchet. Donc voilà, on va commencer à gauche là par la pesée entrée, puis on va suivre le cheminement du déchet, en faisant bien attention aux engins qui circulent.
Ouais. Au chargeur et au véhicule. Allez-y.
Merci.
Donc le site a une forme particulière, mais c'est lié au site qu'on a pu récupérer. Hein. Effectivement, vous aviez une piste, c'est la largeur d'une piste d'aviation, c'est pour ça que c'est large. Ouais. Ça s'élargit un peu après, mais donc on était contraint par la configuration du site. Hein. Voilà. Donc les véhicules rentrent par ce côté-là, s'arrêtent sur le pont bascule pour une pesée en entrée. Donc ils passent son badge qui identifie le camion et vous avez effectivement le poids total en entrée du site. Voilà, donc on l'a indiqué à peu près combien de 40 véhicules jour qui viennent vider sur site en moyenne avec effectivement des pointes selon certains jours. Bon, une fois que le camion a pesé, cette barrière-là se lève. Et le camion part sur ce qu'on appelle le hall de réception, la dalle de réception, pour vider ses déchets verts. Donc on va avancer jusque là.
Voilà, donc là on identifie le type de déchets aussi et de où ça vient. Donc on a la commune, la provenance, savoir si c'est une déchetterie, si c'est un apport d'un petit privé. Enfin voilà, on va savoir ça dès l'entrée.
Et quand vous dites le type de déchet, c'est forcément
du déchet vert, mais qui peut provenir soit de la déchetterie, soit de la collecte en porte-à-porte. Ou soit des petits apporteurs, voilà.
Et dans les types de déchets verts, il y a différentes essences. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont plus facilement compostables que d'autres? Comment vous gérez cette différence?
Alors ça, on va le voir au niveau du broyage. En fait, pour faire un bon compost, c'est 2/3 d'azote et 1/3 de carbone. L'azote, on va dire, entre guillemets, c'est de la pelouse. Et le carbone, c'est des branches. Alors après, on va s'adapter en fonction de la saison. Et puis le compost va changer aussi un petit peu de teneur en fonction des déchets apportés. Mais on reste que sur de la tonte, de la pelouse, des feuilles. Voilà, des branches et un peu de pommes, choses comme ça, enfin ce qui reste de nos jardins.
On n'est pas capable de s'adapter aux essences, effectivement, il y a tellement d'essences différentes qui arrivaient, donc a priori, je dirais, tout se composte, hein, toutes les essences se compostent, il n'y a pas
Oui, parce que souvent on dit quand il y a beaucoup de sapins, ça n'arrive pas à composter. Après, tout est mélangé, on n'a pas dans la journée que du sapin, quoi, donc ça ne pose pas trop de soucis.
Effectivement, au fur et à mesure des étapes, on a beaucoup de mélanges différents qui interviennent. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir un produit qui est relativement homogène, malgré un produit hétérogène en entrée. À l'arrivée, le produit est quand même très homogène. C'est ça qu'on peut dire, ouais, tout à fait.
Vous allez voir.
Il a été retourné plusieurs fois, mélangé, etc. Donc, on est quasiment sûr de sa composition. Donc, ça fait quoi 20 ans, 25 ans qu'on fait du compost. On n'a jamais eu de difficultés d'écoulement, ni d'agriculteurs qui feraient état d'un compost qui aurait perturbé ses cultures. On a une grosse demande sur le compost. Ouais. Hein, on ne fournit pas la totalité de ce qu'on demande. Hein. Donc,
ouais, ça va vraiment très très bien. Puis en 10 ans, vraiment, ça a changé de mentalité. Le milieu agricole s'est vraiment approprié le compost pour limiter aussi tout ce qui est engrais chimiques. Et vraiment, ça, la mentalité a vraiment changé sur le sujet.
C'est principalement
les agriculteurs du secteur Vitry qui viennent vous acheter du compost?
Oui, ça reste 90% très local. Et en se redéplaçant à Vitry, on s'est remis encore au plus près des repreneurs de compost. Ça a limité les trajets.
Et sur Rosamartis-Marquion, parce qu'on voit que les agriculteurs viennent avec leur tracteur et une grosse benne derrière, donc ils ne peuvent pas non plus faire 50 ou 100 km. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un rayon de 20 km, à mon avis, pour le compost en version locale.
Ouais, le choix d'avoir mis Vitry en Artois pour ce site, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi d'être au plus proche de ceux qui reprennent donc ce produit, parce qu'il faut savoir que nous on fait rentrer du déchet, réglementairement on fait rentrer du déchet vert et on sort réglementairement un produit, puisque notre process de transformation permet de garantir que notre compost est un produit normé, c'est la norme NF44051. Donc vraiment, on est sur un process où du déchet, on devient un produit qu'on peut vendre.
Voilà, vous avez le chef d'équipe qui est là. C'est lui qui fait que tout marche bien. Donc on va aller. Donc là, c'est la première phase, donc la pesée, l'entrée. On va aller.
Centrale de réception.
Ouais.
Si on attend un petit peu, on est dans le brouillard.
Pourquoi vous n'avez pas encore branché? Donc là voilà, donc on appelle ça la zone de dépotage, c'est dans notre jargon, en fait c'est la zone de dépose des déchets verts. Donc ils arrivent avec leur véhicule, une benne ou un camion de benne d'ordures ménagères, ils déposent, donc vous voyez ça fait un gros tas de déchets, donc il y a des branches, de la pelouse. Et donc on va passer sur la deuxième phase chez nous qui est le broyage. Donc le broyage c'est... L'idée c'est de trancher les déchets et de faire en sorte d'avoir ce fameux mélange de tiers azote et un tiers de carbone. Et donc le conducteur de la pelle va faire en sorte de bien mélanger le déchet et le passer, avant de le passer dans le broyeur. C'est ce qui fait le succès de la recette de compost, c'est vraiment ce qu'on met en entrée. Alors si on a des déchets qui ne sont pas conformes, par exemple trop de plastique ou un déchet qui n'a pas à être ici parce que c'est c'est des sacs poubelles. Donc nous ici, les chauffeurs vont le trier, on a une benne pour mettre dedans. Ou si vraiment la benne est vraiment catastrophique, on recharge la benne et on refuse à ce qu'elle dépose. Pareil, si par exemple on a beaucoup dans la benne, on a beaucoup de déchets qui sont vraiment fermentés depuis très longtemps. Alors, une benne de pelouse qui est sur un site depuis 6 mois et à chaque fois ils remplissent et elle se redégrade. Là, effectivement, on a aussi la possibilité de refuser la benne parce que c'est ce qui va engendrer des problématiques d'odeur déjà à la réception et tout au long du process. C'est-à-dire que si vraiment elle est déjà très compostée, ça va vraiment. Voilà. Les problématiques d'odeur n'arrivent que dans ces cas-là.
Donc le premier tri, il est visuel, quoi. Regardez.
Il est visuel. Voilà, il est visuel. Alors, il faut relativiser. Hein. Franchement, c'est hyper rare.
Là, vous avez voilà. Le taille propre, on voit quasiment pas de plastique. Les gens jouent le jeu au niveau de la collecte. On a un déchet vert qui est globalement propre en entrée. On a vraiment que du déchet vert.
Ils viennent en déchetterie, c'est déjà. Ils viennent souvent avec une remorque de déchets verts et ils ont cette volonté de trier, quoi. Donc non, il n'y a pas de gros soucis dans les apports de déchets.
On peut rappeler également qu'il y a un travail des agents de déchetterie justement qui sont là pour veiller et puis pour également conseiller.
Tout à fait, c'est le rôle des agents de déchetterie de conseiller sur la benne, bien dire d'enlever le plastique quand on vide son sac, etc., de ne pas le laisser. Effectivement, broyer, il pourrait après un peu polluer le reste de la chaîne. Voilà.
Donc le broyeur, donc vous voyez, c'est juste. Alors, avec le chargeur, il va prendre les déchets verts avec son godet. Il va les mettre dans la trémie. Et en fait, alors on va aller voir si vous voulez un petit peu plus près. Il y a des axes avec des espèces de dents. Et les dents, elles vont grignoter le déchet vert. Donc l'idée, c'est plutôt de défibrer le déchet vert. C'est-à-dire, on va plutôt le déchiqueter que le couper en petits morceaux. Pourquoi ? C'est pour aider que les bactéries. Parce que, en fait, ce qu'on fait en compostage, c'est ce que la nature fait. Nous, on met juste. Enfin, je vais expliquer après. Mais voilà, nous, on met juste les meilleures conditions pour que les bactéries se développent. Donc, en fait, on va défibrer le déchet. Et les bactéries, elles vont avoir plus de zones d'attaque. Pour dégrader la matière organique. Donc ça tombe et puis après vous avez un espèce de tapis qui remonte le déchet entre deux. Alors je sais pas si vous voyez l'espèce de tapis là et la benne rouge en dessous. Ça permet d'enlever la ferraille. Alors la boule de pétanque qu'on oublie, le sécateur. enfin oui, non mais ça arrive. Donc voilà. Et donc ce qui va tomber, nous on appelle ça du broyat. Donc on va pouvoir aller voir si vous voulez.
On va faire un essai de broyeur ou pas
Bruno, on peut faire un essai.
On va déjà aller voir et puis on va faire l'essai après.
Donc,
on
peut mettre
le broyeur. Attends, on va attendre.
Donc, le débit du broyeur, c'est 50 tonnes par heure. En fait, on est capable de broyer des énormes, vous verrez, des énormes quantités sur une seule heure. C'est impressionnant, ces engins. Donc c'est un broyeur électrique, ce qui nous permettrait de effectivement réduire le bruit. Bah, déjà les pollutions par rapport à des broyeurs thermiques, et surtout en termes de bruit, c'est beaucoup moins bruyant et c'est plus performant des broyeurs électriques fixes.
Alors il y a juste une petite particularité là que vous pouvez voir, c'est-à-dire que quand on a un peu trop de pelouse qui arrive, on va mettre du structurant, parce que comme je vous disais, les deux tiers azote, un tiers carbone, le structurant c'est du carbone, on va dire c'est les branches qu'on verra en fin de process, et on le réinjecte en tête pour apporter assez de branches pour que les bactéries vivent bien au niveau de la fermentation. Voilà, donc vous voyez ce petit amas rond là, ça c'est nous qui ramenons pour redonner du structurant aux déchets.
Vous aimez le gazon mais pas trop?
Bah, on s'adapte. du gazon frais, on s'adapte. Du gazon qui a une semaine ou 15 jours, il est compliqué celui-là. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que si.
J'avais rencontré des agriculteurs qui font de la méthanisation qui me disaient, pour nous, le gazon, c'est de l'or en barre.
Exactement. Parce qu'en fait, la méthanisation. En fait, vous allez voir après sur le process de compostage, on a une phase de fermentation. Et nous, le but de la fermentation, c'est que les bactéries. On a certaines catégories de bactéries qui se développent. Et nous, on ne veut pas des bactéries qui font du méthane, du CH4. On veut des bactéries qui prennent de l'oxygène, donc on veut donner de l'oxygène aux bactéries, et pour donner l'oxygène, si on met un gros tas de pelouse, ça fait un gros tas, ça tasse, l'oxygène passe pas, et là ça méthanise, voilà.
Et méthanisation dit odeur.
Et voilà.
Donc en fait nous on veut faire l'inverse de méthanisation. Voilà, exactement.
Ce qu'on veut juste, c'est que les tas de pelouse, on mette de la branche pour que ça aère entre deux, et que l'air passe dans les déchets verts. Et c'est vraiment le contraire du principe de la méthanisation. Et nous, en sortie, on va avoir en vapeur, on va avoir de l'H2O en vapeur, la vapeur d'eau, on va avoir un peu de CO2 aussi. Donc voilà, c'est vraiment. Alors même si c'est les mêmes déchets, c'est pas du tout le même process. Et c'est le contraire. Nous, le but, c'est que l'oxygène passe un peu partout, quoi. C'est le secret.
C'est de l'air, quoi.
Exactement.
On brasse beaucoup d'air aussi, mais c'est ça que vous voulez dire.
Radio.
Scarpsens. Reportage.
Le centre de valorisation organique du CIMEVAD à Vitry-en-Artois.
Ce qu'on s'aperçoit également, c'est que finalement, que de broyer ou râper comme ça,
ouais.
Ça génère pas trop de poussière, quoi.
Non. Alors il y a assez peu de poussière sur ça, parce que le déchet est déjà humide, en fait. Voilà, à part l'été où vous allez avoir un peu de poussière, parce que le déchet qui arrive est pas très humide. Voilà, en broyage, ça met pas trop de poussière. La seule poussière qu'on peut avoir, c'est au niveau du crible. Une fois que le déchet vert est séché, la première phase, effectivement, vous allez voir, là, il y a un peu plus de poussière. Mais à part ça, c'est... Voilà.
Justement, vous parlez de l'été, de l'hiver. Le process, il est plus long, plus rapide, en fonction également des saisons?
Non, alors il est toujours sur 21 jours, au moins sur la première phase. C'est 21 jours de fermentation, systématiquement, été-hiver. Et après, ça va être la deuxième phase de maturation, ça va être en fonction effectivement du déchet. On va voir l'état de dégradation, on fait des tests, voir s'il est mature ou pas, et en fonction, effectivement, on va augmenter ou pas la durée de maturation.
On parlait tout à l'heure des débouchés agricoles pour ce qui sort au final d'ici. Pour un agriculteur qui veut faire de l'agriculture biologique, c'est quelque chose qu'il peut utiliser.
En fait, c'est un produit normé, donc il peut utiliser un NF440551. Donc effectivement, il peut utiliser ce produit pour structurer et amender sa terre.
Une fois que le déchet est broyé, là, il part dans les tunnels de fermentation qu'on appelle biodôme. Les 8 tunnels, on a 8 tunnels de fermentation sur lesquels on va pouvoir assurer de la ventilation, on va s'y rapprocher.
Quand vous dites qu'il part là-bas, il n'y va pas tout seul, on l'y amène.
Exactement, en fait, c'est le chargeur, vous voyez là, reprend au godet le déchet et va le placer dans les tunnels.
Il y a beaucoup d'engins qui circulent sur le site.
Exactement,
hein.
Donc on va peut-être marcher sur le trottoir.
Là, on est sur la troisième. Alors, on a fait la pesée, on a broyé, et là, on est sur la phase de fermentation. Donc, la phase de fermentation, c'est ce que fait la nature. Vraiment, on ne rajoute rien, vous voyez, il n'y a aucun produit supplémentaire. Et on va juste donner les meilleures conditions pour que les bactéries, elles bossent. Voilà, nous, on est des exploiteurs de bactéries. Et donc, pour qu'elles bossent, nous, on veut des bactéries qui respirent avec de l'oxygène. Donc, on va donner de l'oxygène et de l'eau. Alors, l'eau, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas une grosse problématique. Et au contraire, on va plutôt souffler, on va apporter de l'oxygène par des souffleries. C'est dans la dalle, il y a des petits trous, des ventilateurs derrière, et on injecte de l'air. Donc les bactéries, elles vont se développer, c'est des bactéries naturellement présentes dans les déchets verts. Elles vont se développer, donc elles vont dégrader la matière. En dégradant la matière, la température va augmenter, comme nous, hein, quand on court, etc. Bref, la température augmente. Et dans le tas, ça va monter à 80 degrés pendant 3 jours. Ce qui permet une hygiénisation du produit. C'est compliqué. Et donc, en fait, on va détruire tout ce qui est germes et tout ce qui est les germes de mauvaises herbes. Enfin, en fait, on va tuer cette germination possible. Donc ça, c'est une obligation réglementaire, hein, de monter à 80 degrés pendant 3 jours. Et donc, une fois qu'elles ont dégradé toute la matière qu'elles pouvaient, donc elles vont dégrader les matières les plus simples, ce type de bactéries, une fois qu'il n'y a plus de matière simple, entre guillemets, hein, elles vont mourir, et à partir de là, la température va chuter. Et donc, on sait que c'est la fin de fermentation. Quand la température chute, on sait que c'est la fin de fermentation. Et donc, à partir de là, on va finir, et on va les refaire sur une quatrième phase, qui sera le criblage. Donc, la fermentation... Voilà, c'est ce qui se fait dans la nature, hein. C'est vraiment, c'est naturel.
Sauf que dans la nature, ça ne monte pas à 80 degrés, quoi,
ouais,
forcément.
Parce qu'en fait, parce que dans la nature, déjà, on ne met pas les tas en tas, on ne donne pas aux bactéries l'oxygène, donc les tas, on les laisse, ils se tassent, quoi. Enfin, les tas de feuilles restent peut-être pendant 6 mois, 1 an, et c'est le vent qui va les faire...
Si on voilà. Accélère ce qui se produit naturellement. En fait,
voilà. On appelle ça la fermentation accélérée.
C'est quoi ce qui ressemble à une pompe à vélo plantée dans chaque tas là ?
Non, c'est pas pour mettre de l'air. C'est une sonde. En fait, c'est des sondes de température et d'oxygène. Donc, c'est ce qui vont nous permettre, ces fameuses sondes, de voir que la courbe chute et que c'est la fin de la fermentation. Et par exemple, si la température ne monte pas, c'est qu'il y a eu un problème. Donc, soit vraiment le déchet a été mal mélangé au début, il y a une problématique d'aération. Mais c'est hyper rare, quoi. Globalement, c'est un process qu'on maîtrise et qui marche plutôt très très bien. On va aller tout près, si vous voulez, voir les bus.
Ça fume, hein. On voit que c'est chaud. Hein.
Ouais, en fait, ce qui fume, ce que je vous dis, c'est de la vapeur d'eau. En fait, c'est vraiment tout bête.
Il n'y a pas moyen de récupérer cette chaleur.
Alors, c'était des grosses discussions, sauf que en termes de chaleur, ça en produit peu proportionnellement. Tout ce qu'il faut mettre en termes de récupération de chaleur, ça coûte tellement cher. Économiquement, c'est pas viable. Et est-ce que toute l'énergie, entre guillemets, dépensée à se faire ça, est-ce que ça équivaut à la température qu'on pourra récupérer Voilà, les études ont montré que c'était pas forcément viable. Donc voilà, donc ça c'est des tas frais qu'on vient de broyer. Et vous voyez, il y a des espèces de dalles avec des trous. Et les trous, l'air passe.
Il y a à peu près 1000 buses dans chaque tunnel, il y a à peu près 1000 buses là, qui ont été installées. Et on verra derrière tout à l'heure les ventilateurs, qu'on verra sur l'arrière, on verra les ventilateurs qui envoient l'air frais en permanence dans le... Donc l'air n'est pas chauffé, hein. On envoie de l'air à température ambiante. Hein.
C'est de l'air extérieur qu'on récupère et en fait c'est la vapeur d'eau, je vous expliquais. C'est les bactéries en travaillant, elles produisent de l'énergie.
Ce qu'on voit effectivement, c'est pas une combustion, hein, c'est pas une fumée de cheminée, c'est juste de la vapeur d'eau qui sort en fait parce que ça chauffe. Donc en fait, la fermentation, on extrait de l'eau du produit en fait, on est en train de le sécher quelque part. Hein. Il y a une forme de séchage biologique naturel, hein, c'est juste de la vapeur d'eau.
La forme du toit, c'est quoi ? C'est l'architecte qui trouvait ça beau ou ça Ça fonctionne.
Non, l'architecte, à mon avis, non. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie ce genre de forme. Non, c'est le concepteur du process hein, qui a ce type d'architecture qui permet effectivement d'évacuer la vapeur d'eau, effectivement d'avoir une architecture légère hein, et qui n'est pas sensible parce que c'est assez corrosif quand même, ces vapeurs d'eau, ça pourrait être corrosif. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une structure légère qui ne soit pas sensible à ces vapeurs d'eau, etc.
Puis éviter peut-être la condensation qui retomberait sur le tas. Quoi.
Voilà, donc
c'est ça plus. Permet d'évacuer. C'est pour ça qu'on voit des fois un peu d'air qui sort. Donc c'est biodôme, c'est ce qu'on appelle des biodômes ici. Effectivement, c'est la vapeur d'eau qui sort sur les côtés. Alors vous voyez l'odeur, c'est une odeur de sous-bois plutôt. C'est pas une odeur désagréable, voilà, c'est cette odeur-là au quotidien.
Si on aime aller aux champignons, on est bien quoi.
Voilà, après c'est chacun ses loisirs.
Et dans tous les cas, c'est pas une odeur, on va dire, dangereuse pour l'homme, dans tous les cas. Même si ça devait sentir, ça peut sentir de temps en temps. Dans tous les cas, on est quand même sur un process naturel. Il n'y a pas aucune dangerosité pour l'homme sur ce type d'odeur. Parce que vous voyez, les opérateurs sur site, qui sont les premiers concernés, on n'a pas de protection particulière au niveau de... Il n'y a pas de masque, il n'y a rien indiqué.
Donc c'est un peu la nouveauté par rapport à Saint-Lenoble. C'est-à-dire qu'à Saint-Lenoble, on criblait en fin de process. Ici, on crible au milieu de process. Et le but, c'est de récupérer tout ce qui est la matière, le bois, pour faire de la biomasse, enfin du bois utilisable en chaufferie. Voilà, c'est vraiment la différence par rapport à Saint, on va dire. Hein. Et donc, ce fameux crible, c'est un crible à trois fractions. Donc, vous avez une fraction grossière, qu'on voit là. Donc, c'est tout ce qui est supérieur à 80 mm. Cette fraction grossière, on va la stocker et nous, on va la retravailler. Alors l'hiver plutôt, où c'est plus calme, on va la retravailler pour en refaire du bois de chaufferie. Il y a une deuxième fraction qu'on verra derrière, c'est la fraction 20-80, donc on appelle ça la fraction biomasse. Voilà, c'est des morceaux de bois qui peuvent aller en chaufferie directement. Et on a une fraction inférieure à 20 mm, ça c'est le pré-compost. Donc c'est le compost qu'on va retravailler après sur la dernière phase de la maturation. Donc ce compost ira en agriculture. Voilà, donc c'est pareil, c'est une trémie, hein, ils arrivent avec l'engin, ils font tomber dedans, et avec les tapis, alors c'est des mailles, c'est une espèce d'axe avec des mailles qui vont plus ou moins vite, qui sont plus ou moins grosses, en fonction de ça, en fonction de la granulométrie, ça va tomber dans les différents sorties. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, ça c'est ce qu'on, voilà, c'est de la grosse branche que nous on va retravailler, puisque les chaufferies veulent surtout un diamètre maxi, donc on est obligé de les rebroyer, de les retravailler.
Vous fournissez déjà pour l'instant en bois énergie
Ouais, on fait des essais sur la chaufferie de l'écoquartier de Saint-Lenoble.
Et c'est le chaufferie qui alimente le grand centre aquatique sur Séane, l'hôpital de Dechy, Auchan,
le centre commercial,
le quartier des Épis, etc. Ouais. Donc c'est une grosse, grosse chaufferie, bois. Voilà, donc on a des camions d'essais en ce moment avec l'exploitant de la chaufferie. On teste.
Il y a une piscine juste à côté, c'est pas compatible avec la chaufferie de la piscine ici Aquatis.
Alors sur la chaufferie aquatique, la particularité, c'est que c'est une petite chaudière donc qui prend plutôt du type pellets. Hein, voilà, donc on va devoir après travailler, voir comment nous on peut créer ce combustible. Pour l'instant, effectivement, le process ne nous permet pas de valoriser en direct ce bois sur. L'idée, c'est qu'on a nous pris des engagements pour travailler et voir quel matériel qu'on pourrait rajouter pour créer ce fameux combustible pour la chaufferie, effectivement. Mais c'est un objectif qu'on s'est fixé.
C'est énergivore le site?
Alors les consommations, c'est des consommations électriques. Alors je sais plus de tête, c'est une bonne question. J'ai plus en tête les consommations électriques. Bah c'est surtout en fait on a le gasoil des engins et après l'électricité du broyeur et des ventilateurs. Donc je pense pas qu'on ait tant de consommation que site. Hein.
Je sais pas.
Non, mais c'est en termes de bilan parce qu'on parle d'énergie. Voilà, est-ce que finalement ça vaut le coup? Est-ce qu'on consomme plus d'énergie qu'on en produit?
Bah, on produit l'énergie et on produit du compost, on produit deux, on produit pas l'énergie à travers le combustible. Dans tous les cas, il faut savoir que ce produit bois, dans tous les cas, avant, on faisait comme du compostage, on le produisait, on le valorisait pas. Dans tous les cas, ça sera un plus puisque c'était du refus, on avait du mal à s'en embarrasser. Donc là, vraiment, c'est une nouvelle filière qu'on travaille, qui n'existait pas avant. Il y a très peu de plateformes de compostage qui font du bois énergie. Donc ils ont toujours un excès de bois, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, c'est vraiment le fait de faire du bois, on ne va pas consommer plus d'énergie. C'est vraiment, on va produire plus d'énergie que ce qu'on en produisait avant. Au départ, ce n'était que des plateformes de compostage de déchets verts. Maintenant, c'est compostage et bois énergie. Ouais. Et c'est possible puisqu'on a des nouvelles machines. Et c'est aussi parce qu'on commence à avoir des gros chaufferies bois qui sont capables de prendre ce produit. Donc, il fallait les deux. Il fallait les chaufferies et le matériel.
Alors, on va juste passer sur la cinquième phase qui est la maturation. Donc ça, c'est le compost. Donc c'est tout ce qui est entre 0 et 20 mm. Et on va finir de le maturer. Donc c'est d'autres bactéries qui vont en rentrer en jeu. Et alors, dans la nature, c'est des vers de terre. Ici, on n'en a pas. Mais c'est d'autres champignons et d'autres bactéries. Alors là, ils vont monter maxi à 50 km/h. Et on a cette fameuse machine qui est un retourneur d'andin. Et le but du retourneur d'andin, c'est de casser les mottes. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la terre va se faire des mottes. Nous, on va les casser pour réoxygéner le produit et éviter que ça méthanise. Donc vous voyez, cette machine, il y a un espèce de gros rotor qui va tourner. Et en tournant, voilà. Alors on a dit d'y aller commencer tout doucement. Et puis il va le faire tout doucement. Il va rentrer dans le tas.
Et le tas va ressortir derrière.
Et le tas va ressortir derrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre tout à côté.
On peut avancer un peu là.
On peut avancer un peu. Mais c'est ce que j'attends de voir jusqu'où ça projette. C'est pour ça.
Ouais, pour donner une idée à l'auditeur, ça ressemble à un gros scarificateur, quoi.
Ouais, mais le robot, il est top, quoi. La cabine, elle se lève et tout.
Donc ça permet de terminer la maturation du compost.
En plus, ça arrive vers nous, c'est sympa. Hein.
Ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'à ce stade-là, on sent l'odeur, mais les premières habitations, elles sont
très loin. 800 mètres.
On le sent ou pas quand on est là-bas?
Ça peut arriver effectivement de temps en temps quand on a des conditions météo particulières, vous savez, des ciels bas qui écrasent un peu les températures, effectivement. Donc c'est pour ça que maintenant on fait quand même attention. C'est l'étape qui est la plus sensible, hein, puisque effectivement, plus on va le retourner, et plus le compost sera mûr et bon pour les culteurs. Donc en fait, on ne peut pas s'affranchir de cette étape, effectivement. Donc on fait attention au sens du vent quand on le fait, etc. Et en plus, ça ne dure qu'un temps. Une fois que le tas a été retourné, c'est bon. Une fois qu'il est posé, il est posé. Hein. Et c'était pas envisageable, hein, ça se fait pas sur des compostages comme ça, c'était pas envisageable de faire ça dans un bâtiment fermé. On aurait des quantités de vapeur d'eau phénoménales à gérer avec des problèmes de condensation. Donc toutes les plateformes de compostage de déchets verts, vraiment déchets verts, se font comme ça à l'air libre. Hein, donc on peut pas faire ça sous bâtiment, ça serait beaucoup trop grand, beaucoup trop cher, et ça poserait des problèmes de maintenance et d'exploitation du site. Il y a trop de vent, on fait pas les étapes de retournement par grand vent, parce que vous voyez, il y a un peu de compost qui peut voler, donc effectivement, quand il y a trop de vent, il n'y a pas de retournement.
Non, on fait vraiment attention.
On a une station météo, vous avez une manche à air, mais en plus on a une station météo avec le sens du vent et la direction du vent, ce qui nous permet, si un jour par exemple on devait être accusé de mauvaises odeurs, première chose qu'on fait, on vérifie la station météo, est-ce que c'est ce jour-là effectivement les vents étaient vers le village ou pas, donc et ça permet également nous d'adapter les travaux en fonction de la météo.
Il y a eu de la concertation avec les habitants au moment d'installation ou
Alors sur une unité comme ça, on a obligation, c'est des sites soumis à autorisation, donc on a obligation de faire des enquêtes publiques. Donc effectivement, il y a eu une réunion publique, présentation au conseil municipal et enquête publique pendant un mois. Les gens ont pu venir se prononcer. On a eu très peu de gens qui se sont déplacés en mairie pour exprimer une opinion et aucune remarque négative sur le projet. Donc il faut dire aussi qu'il y avait eu une bonne communication de la mairie sur le projet en amont, donc un gros travail de concertation avec le maire, il faut souligner, hein, sans le travail de collaboration qu'on a mené avec eux, on n'aurait jamais pu implanter une unité comme ça. Il y a également eu un souhait de M. Georget, hein, d'appuyer le projet, de céder le site, hein, on était sur un site communal, hein, de céder le site et après de travailler avec nous et de faire la concertation avec les habitants.
Radio.
Radio.
Radio. Scarpe sens. Reportage.
Là, on voit bien à droite du compost qui est prêt à partir, ouais. Celui-là. Celui-là, à la droite de l'OTA, et c'est du compost qui est prêt à être commercialisé et à partir et être répandu.
On a déjà vendu là depuis le début, donc on a ouvert en mi-mars, on a déjà sorti plus de 5000 tonnes de compost.
Donc la difficulté, c'est qu'effectivement, le compost, on ne peut pas le valoriser toute l'année, donc il faut pouvoir stocker, comme le bois énergie, on a des périodes de chauffe, hein, qui durent 6 à 8 mois, donc on doit être capable de stocker le compost et le bois énergie pour répondre aux besoins utilisateurs. C'est nous qui stockent, ce ne sont pas eux qui sont capables de stocker chez eux. Donc là, vous avez effectivement le compost, et là, vous avez ici le bois énergie derrière vous, là, donc cette fraction-là qui partira dans les chaufferies en test, hein, pour chauffer. Donc vous voyez, c'est pas de la plaquette forestière qu'on a l'habitude de voir, donc c'est du bois, mais assez fin, puisque les branches, finalement, les tailles de haies des gens sont assez fins, donc c'est pour ça qu'on a un bois un peu particulier, qui nécessite des tests en chaufferie. Mais c'est vraiment que du bois, avec un pouvoir calorifique qui est pas très éloigné du charbon.
niveau rejet de CO2, c'est pas le top quand même.
Tu vois ?
Ouais. Bah, on a entendu des villes qui interdisaient les feux de cheminée en disant qu'il faut lutter.
Oui, en fait, le gros problème des... Le problème, ce n'est pas les gros chauffages bois collectifs. Le problème, ce seront les chauffages bois individuels des particuliers parce qu'il y a pas de... on ne retient pas les particules fines. Alors par contre, les grosses chaufferies industrielles, elles sont équipées de filtres. Le problème, ce sont effectivement, quand on est dans les vallées alpines, ce sont tous les gens qui chauffent au bois. Effectivement, là, vous avez tous les rejets de particules fines dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour une grosse chaufferie. Donc, vaut mieux une grosse chaufferie que plein de petites de personnes qui consomment du bois. Par contre, effectivement, vous avez bien sur un chauffage bois, il y a bien de rejets de CO2, mais au même titre que du charbon ou du gaz, etc. Donc, effectivement, on reste sur des combustibles qui rejettent CO2. Par contre, là, c'est un combustible renouvelable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un combustible fossile du gaz où on ajoute du CO2. Ce CO2-là du bois, on considère que c'est un cycle fermé. En fait, la plante l'a absorbé et le rejette. Donc, en fait, c'est pour ça que les chaudières bois sont acceptables en termes de rejet carbone, puisqu'on est neutre. C'est du bois qui a été capté par la plante, qu'on rejette, qui va être recapté par la plante.
Et en plus, si l'agriculteur qui capte également du CO2 utilise votre compost,
effectivement, à l'agriculture, on capte du CO2, ça c'est vrai. Voilà. Et après aussi, il faut savoir que ce compost vient prendre la place d'engrais minéraux qui auraient été faits de manière de synthèse ou qu'il aurait acheté. Voilà. Donc, en fait, parce que dans ce compost, on a beaucoup de matière organique, mais on a également des éléments fertilisants. Donc,
c'est-à-dire
de l'azote, du phosphore, de la magnésie, de la chaux.
Même, bon, il y a les enjeux économiques derrière tout ça, mais il y a des enjeux environnementaux parce qu'on veut que la nature elle soit propre et qu'elle qui traîne. Mais c'est également, si on est jusqu'au bout, cette petite contribution contre le réchauffement climatique, le fait de bien trier finalement et de valoriser au mieux.
Voilà, donc on lutte contre le réchauffement climatique et après également on économise des ressources. On économise des ressources minérales pour des engrais, et puisque finalement on reproduit le cycle de nature, c'est des déchets viennent des sols de nature et on les renvoie sur les sols. Voilà. Et la partie qu'on n'arrive pas à valoriser sur les sols, on essaie de la valoriser sous forme d'énergie. C'est toujours le principe chez Mevad, d'abord valoriser en matière et après valoriser énergétique. Non. L'idée, c'est de tout valoriser. Le plus possible.
Finalement, on a essentiellement ici des gens qui sont des conducteurs d'engins sur ce site.
Oui, quasiment, à part le chef de site, effectivement, tous les autres personnes sont des conducteurs d'engins ici, donc ils font également la maintenance, mais oui, effectivement, ils conduisent des chargeurs et le retourneur. On n'a quasiment que des conducteurs d'engins ici.
Oui. Oui.
Et après, également, ils font également toute la partie entretien du site, maintenance des engins.
Préparation de la biomasse, je sais pas ce que tu as dit avant, mais oui, préparation de biomasse. Ça s'arrête. On y va ?
Voilà, on continue. Donc, on va passer sur l'arrière du site. Donc là, on a une capacité de stockage d'environ 4 mois pour le bois énergie, puisque le bois est consommé en général à partir d'octobre jusqu'à mai, en fonction des saisons de chauffe, en fonction de température.
Là aussi, il y a un contrôle sur la teneur en eau du combustible.
Ouais, ce qui les intéresse, c'est surtout la granulométrie, donc la taille, le fait qu'il n'y ait aucune impureté, donc pas de pierre, pas de plastique, ça c'est important pour eux, pas trop de fine, ils n'aiment pas tout ce qui est trop de poussière, ils n'aiment pas ça. Et après, effectivement, il faut que le produit soit sec et un certain pouvoir calorifique. Voilà les paramètres que regarde un exploitant de chaufferie. Donc après, en matière de, on peut voir un peu ici ce qui a été fait en matière environnementale. Donc pour tous les sites du CIMEVAD, le souhait de nos élus, c'est d'avoir des sites environnementaux exemplaires. Donc par exemple, en matière de gestion des eaux de pluie, on gère ce qu'on appelle à la parcelle, c'est-à-dire que toutes les eaux de toiture sont envoyés dans des nous enherbés, donc avec infiltration naturelle des eaux de pluie dans le sol. Il n'y a pas de rejet d'eau de pluie dans les fossés qui pourraient inonder après les voisinages. Tout est géré à la parcelle en ce qui concerne les eaux de pluie. Et sur le bâtiment administratif, une partie des eaux de pluie sont utilisées pour les sanitaires. Donc je précise ici, c'est important de le dire, on est dans les périmètres éloignés des champs captants de Kiri. Donc on a eu quand même des prescriptions importantes, on a eu un avis d'hydrologue agréé pour le process qui a été mis en place. On se devait effectivement de respecter la non-pollution de la nappe. Hein. Donc effectivement, tout important qu'on envoie dans les nous enherbés ici en infiltration uniquement des eaux propres de toiture. Les eaux de process, on verra qu'elles sont traitées de manière particulière. Ce qu'on appelle nous eaux de process, c'est l'eau de pluie qui tombe sur l'état, qui va se charger un peu en matière organique, donc c'est une pollution potentielle de la nappe. Donc ces eaux-là, on ne peut pas les infiltrer. On ne pouvait pas non plus les renvoyer à la station d'épuration de Vitry, puisqu'on aurait saturé la station d'épuration. Donc on a, vous verrez à l'entrée du site, on appelle un pré-traitement, c'est-à-dire qu'on va éliminer une partie de la pollution organique par des dispositifs naturels de l'hydrosoplanté, ce que vous avez vu à l'entrée. Donc c'est un processus naturel d'épuration des eaux usées. Ça nous a évité de construire une station d'épuration en dur, en béton, etc.
C'est une lagune, quoi.
C'est du lagunage, c'est ce qu'on appelait avant du lagunage, tout à fait. Sauf que lagunage, souvent, vous avez quand même des bassins qui tournent. Vous verrez, là, on n'a pas vraiment de bassin. On a des bassins tampons, mais après, c'est l'eau qui circule comme ça à travers un lit filtrant, des lits filtrants. En fait, l'eau vient se dépolluer. En fait, ce sont des plantes qui assurent la dépollution. Voilà, c'est brillant. C'est une broyeur, comme encore. En matière environnementale, je vous ai expliqué, donc on était sur d'anciennes pistes d'aviation allemande ici, donc il y avait au moins 30-40 cm de béton, donc on a cassé la totalité des dalles, on a fabriqué un minéraux calibré qu'on a utilisé donc, pour en sous-couche ici et également pour créer cette piste ici, le contournement du site. On a créé une piste de desserte agricole pour que les agriculteurs puissent continuer à accéder à leur champ. Donc ça a été créé avec les anciennes pistes allemandes, on a reconcassé pour faire le fond et après on a remis de l'enrobé au-dessus. Voilà, donc c'était le choix de réutiliser sur le site tous nos sous-produits. Donc là, on est sur l'arrière des tunnels. Vous voyez donc l'ensemble des ventilateurs. Un ventilateur par tunnel qui permet d'envoyer l'air frais et dans les bus qu'on a vu tout à l'heure. Là, on peut avancer, allez. Pareil, en termes de végétation, vous pouvez voir qu'on a implanté uniquement des essences locales. Donc là, vous avez principalement des noisetiers ici. Vous avez également des sols. Hein, dans les nouilles, il y a des sols qui ont été plantés. Voilà, donc pas d'épicéa ou je ne sais quoi, de tuya ici, que des essences locales. Bon, qui méritent d'avoir un peu de temps pour pousser, mais on aura quand même un beau rideau arboré sur la totalité de cette façade-là qui est visible depuis la route.
Ici, on est sur le bassin incendie. Hein. Donc on a une obligation réglementaire d'avoir 300 mètres cubes de disponibles au cas où. Voilà, donc il est rempli avec les eaux de pluie principalement. Et puis bien sûr, au besoin, il est complété par le réseau d'eau classique.
Et puis ça séchait parce qu'on était en période sèche, effectivement, on complète avec de l'eau potable. Mais d'abord l'eau de pluie.
Voilà, donc on va aller au niveau du traitement des eaux et on aura fait le tour.
Effort architectural comme sur le bâtiment, comme toujours.
Il y a quelques années, Cimevad, pour les habitants, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que c'est le début. Aujourd'hui, quand même, les gens ont compris quel est votre rôle et ce que vous faites sur le territoire.
Oui, on pense, effectivement, on est, même si, effectivement, on peut paraître un peu loin, parce qu'on n'est pas en contact direct avec l'habitant, puisqu'on construit l'usine, mais à travers les plus de 20 000 personnes qui sont venues déjà au centre de tri, à travers nos 20 000 composteurs distribués. Je pense que les gens ont compris ce que faisait le Cimevad, quel est l'intérêt de bien trier, de composter ses déchets, etc. On a également plusieurs milliers de stop-tubes Cimevad qui sont imposés sur les boîtes aux lettres. Donc le Cimevad commence à avoir effectivement une notoriété importante depuis 10 ans. Donc ici, on est sur la partie traitement des eaux, dans ce qu'on appelle les eaux souillées, donc c'est-à-dire l'eau de pluie qui tombe sur nos tas là-bas, qui ruisselle, et qu'on vient pré-traiter ici, avant en rejet au réseau communal de Vitry.
Donc c'est des bassins de filtration avec des roseaux qui se recyclent. Ça fait baisser la charge de matière organique, et après on peut rejeter à la station.
On va avancer un peu si on veut les voir, ils sont là-bas en fait. Hein.
Ouais,
là, c'est des bassins tampons, ce qui permet de tamponner les quantités avant de les rejeter, mais les lits de roseaux, ils sont plus précisément là-bas au fond.
C'est ce qu'on voit juste quand on passe sur la route. Quoi.
C'est ça, voilà. Et donc là, vous avez également des noues pour les eaux pluviales ici. Hein, donc là, c'est effectivement pour infiltrer les eaux pluviales. Donc c'est pour ça qu'on installe des sols au fond, puisqu'on sait que ce sont des arbres qui vont consommer beaucoup d'eau. Donc tout est parti. Donc là, c'est l'eau propre et là, c'est l'eau entre guillemets sale, à droite.
Les voisins d'en face, c'est toujours le ministère de la Défense ?
Oui, c'est toujours un champ de tir, donc quasiment pas utilisé. Mais comme voisin, effectivement, on a le ministère de la Défense et les agriculteurs. Voilà.
Donc,
en entrée de site, on a préféré mettre tout ce qui était plutôt traitement paysager en entrée de site, hein, visible de la route. Et la partie industrielle, on a préféré la mettre au fond. Voilà.
Vous avez eu quand même des gens curieux qui se sont hâtés, qui ont essayé de venir voir ce qui se passait ?
Assez peu. On a eu au tout début, vraiment, à l'ouverture, on a eu quelques personnes qui sont venues. Mais maintenant, non, c'est bon. Maintenant, je pense que les gens voient que c'est un site industriel et qu'ils ne peuvent pas entrer comme ils le souhaitent. Hein.
La visite du CVO, Centre de Valorisation Organique du Cimevad, à Vitry-en-Artois. Un reportage de Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.